Comment résumer la saison de l'Opéra de Dijon en une quinzaine de minutes? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire avec vous, Bruno Amar. Vous êtes directeur général délégué auprès du patron de la maison, Dominique Pitoiset. Alors, ça va être d'autant plus difficile qu'il nous faudra parler opéra, ça va de soi, mais aussi concert, danse, musique du monde, ou pourquoi pas cirque. Sachant aussi qu'une saison d'opéra, une saison de spectacle, se décide le plus souvent en plusieurs années à l'avance, est-ce qu'on peut dire tout de même que cette saison 2022-2023 est la première saison que vous signez véritablement avec Dominique Pitoiset?
Oui, c'est la première saison pleine, en effet. Alors, la précédente portait également notre signature, puisque Covid aidant, beaucoup de choses avaient dû être annulées, et on avait eu cette plage vide, on va dire, pour programmer. Une première saison complète, donc, la décrire en un quart d'heure, c'est effectivement difficile. Notre souhait a été d'ouvrir la programmation de l'opéra de manière assez large à de nombreuses esthétiques du spectacle vivant. Donc nous gardons bien évidemment une colonne vertébrale qui est celle de l'opéra, avec plusieurs grands titres qui vont illustrer cette saison, le Stiffelio de Verdi, la Péricole dans la musique plus contemporaine, le Daphné de Mitterrand, le Tour des Croûtes de Britaine, mais aussi Armide de Lully qui sera mis en scène par Dominique Pitoiset, et d'autres titres, mais plusieurs autres secteurs que nous allons développer, que nous développons, qui sont d'une part et au premier rang les concerts symphoniques. Nous disposons avec l'Auditorium de Dijon d'une salle à l'acoustique exceptionnelle, vraiment digne des plus grandes salles européennes, et c'est un écrin idéal pour les orchestres. On a donc décidé d'offrir au public dijonnais une sorte de florilège de grands orchestres. Ça va de petites formations à des grandes formations symphoniques. Nous avons ouvert notre saison avec l'Orchestre de Francfort sous la baguette d'Anna Altinoglu, ensuite l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la baguette de John Elliott Gardiner. Nous avons l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, le Giardino Armonico, l'Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par Renaud Capuçon, la Capella Reale de Catalogne, le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall. Enfin, je ne peux pas tout citer, mais on a vraiment essayé de tirer au mieux parti de cette grande acoustique et de ces grands artistes qui, après des longs mois de silence liés à la situation sanitaire l'année passée, sont heureux de revenir sur scène, et avec l'ambition pour nous de faire de Dijon, sinon un passage obligé, du moins une étape régulière des grandes formations quand elles sont en tournée en Europe.
Bruno Amar, vous parlez de l'Auditorium, mais il y a aussi du nouveau, je dirais du rénové au Théâtre de Dijon, au Grand Théâtre.
Oui, absolument, le Grand Théâtre. Alors, la première phase de travaux, qui est la moins visible pour le public, mais la plus indispensable, puisque ce sont les loges et tous les services techniques qui permettent de faire en sorte que le théâtre vive et donne des spectacles. Donc, cette première partie de rénovation s'est achevée. Le théâtre a réouvert. Ce Grand Théâtre, qui maintenant ne porte pas bien son nom, puisque c'est une salle beaucoup plus petite que l'Auditorium.
Pour situer un peu, l'Auditorium, c'est 1600 places, c'est le Grand Théâtre?
Alors oui, l'Auditorium, c'est une salle construite il y a une petite trentaine d'années, c'est 1600 places, un plateau qui a 18 mètres d'ouverture, qui est comparable à celui de l'Opéra Bastille, et le Grand Théâtre, c'est à peu près 500 places, un petit plateau avec 11 mètres d'ouverture, un théâtre à l'italienne en forme de fer à cheval, donc avec un rapport entre le public et le plateau beaucoup plus intime, on va dire. On perd bien sûr en qualité acoustique, mais on gagne en intimité. Et pour nous, la présence de ces deux lieux permet d'élargir la palette de programmation, et ce sont vraiment deux outils très très complémentaires.
Je reviens aux idées générales qu'on évoquait au début de notre conversation, Bruno Amar. Vous avez voulu ouvrir, on entend le mot diversité, bien sûr. Vous avez tout de même un certain nombre d'équilibres à tenir. Alors, est-ce que c'est pas un travail qui permet de rêver tout de même, j'imagine, sans oublier les contraintes économiques et les difficultés du moment, particulièrement dans la culture. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un certain nombre d'équilibres à tenir?
D'équilibres à tenir, si, ils sont de plusieurs sortes. Nous disposons, avec l'Auditorium et le Grand Théâtre, nous sommes la plus grande salle, le plus gros opérateur de spectacle vivant classique de la région. Donc ça implique, en termes d'équilibre, le fait de pouvoir ouvrir cette salle à un public le plus nombreux possible, et donc de varier la programmation en respectant les lieux, en respectant leur vocation première, et en gardant comme fil directeur celui de la musique et de l'excellence artistique. Mais c'est donc faire de l'opéra, de la musique symphonique, mais s'ouvrir aussi à d'autres esthétiques, la danse, les nouveaux cirques, qui sont une forme d'expression, on veut dire intermédiaire entre la danse, la musique, l'acrobatie, avec beaucoup aujourd'hui de poésie et des spectacles qui sont construits, travaillent avec des dramaturges qui sont bien loin de ce qu'on imagine de la simple performance acrobatique des cirques d'antan, et aussi une ouverture sur des musiques d'aujourd'hui, du jazz, des musiques du monde, un équilibre à tenir avec, encore une fois, une volonté d'éclectisme et d'excellence.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet équilibre à tenir entre l'opéra de Dijon, scène d'intérêt national labellisé il y a peu d'années maintenant, et puis le fait que vous êtes à Dijon avec des partenaires locaux, y compris des partenaires politiques, qui vous demandent probablement de, c'est pas péjoratif, hein, mais faire du local?
Non, je ne verrais pas les choses comme ça. Le label de théâtre lyrique d'intérêt national, il s'accompagne d'un cahier des charges que nous passons avec la DRAC, donc le représentant culturel de l'État dans la région, qui tient compte à la fois d'une volonté. Si vous voulez, le côté local, il peut s'interpréter, c'est ce qu'on fait dans les deux sens, c'est-à-dire le fait d'ouvrir les portes de cette maison à des artistes locaux, mais aussi le fait d'amener ici des artistes internationaux, donc de faire que Dijon soit aussi pour son public un endroit où passent de grandes formations, de grands artistes internationaux. Donc oui, c'est tenir un équilibre, mais somme toute, sans beaucoup de contraintes, on a la chance d'avoir la confiance de notre premier financeur et de loin, qui est la ville de Dijon, mais aussi de la région, et on a... j'allais dire très peu, mais en fait, il n'y a pas d'intervention, d'interventionnisme sur la programmation. Il se trouve que nous avons développé des collaborations avec des structures locales. C'est vrai de La Vapeur, c'est vrai de Why Not pour la musique contemporaine, c'est vrai de Zutik pour les musiques du monde, c'est vrai du Centre chorégraphique, c'est vrai aussi du Théâtre Dijon-Bourgogne. On a plutôt cette envie de partager des choses avec d'autres intervenants culturels du territoire, mais vraiment aucune réelle obligation, si vous voulez. Sinon, celle que nous nous posons nous-mêmes.
Cela dit, vous êtes d'abord à la tête d'une maison d'opéra. Vous commencez en novembre par Verdi. Encore que, malheur à la fin du mois d'octobre. C'est pas un opéra.
Oui, malheur. Mais... Ben oui, voilà, ça n'est pas un opéra, mais enfin, Le Chant de la Terre, autre, il y a musique et voix. C'est quand même un monument de la musique et il va être mis en scène, ce qui est très rarement le cas, par Philippe Ken, donc un jeune metteur en scène français. C'est un spectacle qui a été créé au Wiener Festwochen à Vienne et qu'on fait en partenariat avec le Festival d'automne à Paris. Ce n'est pas un opéra, mais on peut dire que c'est une pièce lyrique. Ça va être, je crois, un très très grand moment de musique et un très grand moment visuel aussi, parce que Philippe Ken a un art très singulier, très original de mettre en scène et d'évoquer la grandeur et la poésie de la musique.
Premier opéra, véritablement, au mois de novembre avec Verdi. Mais alors, Stifelio, qui connaît Stifelio ?
Alors, Stifelio, c'est aussi le rôle des maisons comme la nôtre de pas seulement parcourir les répertoires battus et rebattus et reconnus. Stifelio, c'est une œuvre qui est peu connue de Verdi, parce que d'abord c'est une œuvre de jeunesse et qu'ensuite il l'avait lui-même retirée de l'affiche car elle avait fait scandale. Donc elle a une thématique qui est très particulière, qui est loin de certaines thématiques héroïques de certains des opéras de Verdi. Ça se passe dans une communauté religieuse. Il est question, évidemment, de pouvoir, de liberté, de libre arbitre, mais de châtiment aussi. C'est une œuvre assez sombre, mais avec des pages musicales qui sont vraiment extraordinaires. Et faire découvrir une œuvre plutôt inconnue d'un compositeur qui, lui, est le compositeur d'opéra par excellence, c'est plutôt un très bel enjeu artistique.
L'orchestre Dijon-Bourgogne sera dirigé par Déborah Wallmann, qu'on a déjà vu à la tête de l'orchestre pour Don Pasquale. Elle vient là avec un nouveau statut, si je peux dire.
Absolument. On a choisi avec Dominique Pitoiset de lui donner le statut de chef associé.
Qu'est-ce que ça change, Déborah Wallmann?
Oh, bah, si vous voulez, c'est important, je crois, et pour le public et pour l'orchestre, de pouvoir avoir une relation au long cours avec certains artistes. Alors, contrairement à ce qui s'est passé sous la précédente direction, nous n'avons pas choisi le principe des résidences. Non pas parce que nous sommes contre, mais parce que c'est un principe qui a prévalu pendant de nombreuses années à Dijon et à l'Opéra de Dijon. Ça a été David Grimal et son ensemble pour le symphonique. C'était Leonardo Garcia Alarcón, les dissonances. Leonardo Garcia Alarcón pour le baroque, entre autres, avec un compagnonnage au long cours qui a permis au public dijonnais, au public de la région, vraiment de connaître ces artistes sous toutes leurs facettes et d'explorer de l'intérieur la personnalité de ces artistes. On a choisi, pour le symphonique, je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir beaucoup plus largement à d'autres formations musicales, à d'autres artistes, d'avoir vraiment un grand éclectisme, une grande variété d'offres, qu'il s'agisse de chefs, de solistes ou de répertoires, et d'instruments aussi, solistes. Pour le baroque, on continuera à faire des choses avec Leonardo, qui va être présent plusieurs fois dans la saison, mais on travaille aussi avec Vincent Dumestre, c'est lui qui viendra avec le poème harmonique, notamment pour Armide, de Lully. Qui vient dès ce mois d'octobre, avec Stéphanie Doustrac, qui chantera le rôle titre d'Armide au printemps, mais qui vient là pour Mon amant de Saint-Jean, qui est une très jolie promenade à travers des figures féminines qui vont de la musique baroque à la chanson du XXe siècle. Donc voilà, Déborah Wallmann, ça va être une fidélité artistique, elle va venir diriger chaque année au moins un opéra à la tête de l'Orchestre Dijon-Bourgogne. C'est important pour l'orchestre d'avoir une chef en l'occurrence qui revient pour les diriger dans des œuvres lyriques. Déborah Wallmann, c'est une figure musicale que je connais depuis de nombreuses années. Elle a été, dès l'origine, une des principales chevilles ouvrières du programme Demos, qui était le programme de formation musicale pour des jeunes issus de quartiers en difficulté. Elle a toujours mené en parallèle une vraie, belle, grande carrière de chef d'orchestre et une implication sociale et sociétale très importante. Donc c'est à la fois une belle personnalité artistique et quelqu'un qui est très engagé dans les enjeux sociaux de la musique aujourd'hui. C'est la première femme qui a été nommée à la tête d'un orchestre national, qui est l'orchestre d'Avignon. Et voilà, on entame ce compagnonnage, cette complicité avec elle. Donc ça veut dire une fidélité sur au moins un titre par an. Elle viendra aussi pour diriger des concerts. Et on travaille avec elle sur le choix des opéras que nous allons mettre au programme dans les saisons qui viennent.
On va laisser de côté la péricole du mois de janvier. On pourrait parler du Tour des Croûts, peut-être moins connu aussi, de Benjamin Britten. Armide, donc, Lully, mise en scène par Dominique Pitoiset, vous l'avez dit. Un mot tout de même sur le ballet. Je vois le Lac des Cygnes, mais alors c'est pas celui qu'on a présenté dans une tournée des Zéniths de ville en ville.
Alors c'est le Lac des Cygnes, non, c'est le Lac des Cygnes, la chorégraphie d'Angela Preljocage. Donc Angelin Preljocage, grand chorégraphe néoclassique, ça fait maintenant de nombreuses années qu'Angelin fait des créations, il a sa compagnie qui est implantée à Aix-en-Provence et il fait des créations, il a revisité certains ballets classiques, c'est le cas avec le Lac des Cygnes, et il a cette écriture et ce mode d'expression très contemporain basé sur la technique classique. C'est ce qui fait aussi son succès parce qu'on retrouve tout l'attrait, et notamment l'attrait musical de la partition de Tchaïkovski, mais avec une relecture d'aujourd'hui et toujours beaucoup, beaucoup d'exigences. Donc oui, la danse va être très présente. On va avoir la nouvelle création de la compagnie de Anne Naharine, un des autres grands chorégraphes contemporains. Et puis à la fin de l'année, le Ballet de Lyon, le début d'un compagnonnage avec eux, puisqu'ils viendront pratiquement chaque saison, avec une soirée consacrée à l'immense William Forsythe. Donc une saison de danse, je crois, de très haut niveau.
Et puis donc toujours ces rendez-vous avec les mélomanes, j'aime pas le mot, pour les concerts classiques, avec là aussi des grands noms. Alors on a déjà parlé pour ce qui est des ensembles d'Alarcón ou de Jordi Savall, Renaud Capuçon qui ne vient pas seul, et puis alors un habitué maison, si je peux dire, qui est le pianiste Bertrand Chamaillou.
Bertrand Chamaillou, oui, tout à fait. Bah, Bertrand Chamaillou, c'est quelqu'un que moi je suis personnellement depuis très longtemps, qui est probablement aujourd'hui le plus grand pianiste français. Il a une incroyable maîtrise de son art, et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à tous les modes d'expression. Donc il est venu l'an passé avec la grande soirée consacrée à Liszt, et cette année c'est l'opposé sur l'échelle du répertoire, puisque il vient avec une danseuse pour un spectacle sur 4 pianos préparés sur la musique de John Cage. C'est une des fidélités de l'Opéra de Dijon, oui.
Je me permets de terminer par une question personnelle, Bruno Amar, mais c'est toujours donné à son interlocuteur la liberté de ne pas répondre. Quand on vient de l'Orchestre de Paris, vous étiez le directeur général, on est bien à Dijon ?
On est plus que bien, si vous voulez, on est plus que bien, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'outil lui-même, on en a parlé, un auditorium qui est à la hauteur de la Philharmonie de Paris, dans laquelle se produisait l'Orchestre de Paris. Et je suis, je crois, bien placé pour en parler. Donc, une acoustique, un outil vraiment, vraiment exceptionnel. Une situation géographique, alors je passe sur les beautés de la ville et de la région, mais une situation géographique qui, pour l'avenue des artistes, nous permet d'être au carrefour de beaucoup de choses. Et surtout, un énorme avantage. Je ne parle pas seulement de la qualité de la vie, mais un énorme avantage par rapport à la vie artistique parisienne, c'est une plus grande liberté de programmation. Vous avez à Paris une abondance d'offres qui crée beaucoup de contraintes, parce que quand j'invitais Bertrand Chamaillou à se produire avec l'Orchestre de Paris, ça pouvait être un casse-tête pour arriver à trouver le concerto qui n'avait pas été joué quelques semaines ou quelques mois avant par tel autre artiste ou par telle autre formation dans une des salles parisiennes. Et aujourd'hui, il suffit de lui demander ce qu'il a envie de jouer et de lui demander de venir le jouer. Donc on a des artistes qui sont heureux de venir, heureux de la liberté qu'on peut leur offrir et qui peuvent venir jouer chez nous pour le public dijonnais ce qu'ils ont le mieux dans les doigts au moment où ils veulent le jouer. Donc oui, c'est une grande liberté, et le tout dans un écrin qui est sans commune mesure acoustique avec beaucoup de salles parisiennes.
Alors vive la musique à Dijon, à l'Opéra, au Grand Théâtre, à travers une série de manifestations. On n'a pas détaillé, mais on savait qu'on ne pourrait pas le faire. Ça dure jusqu'à, bon, allez, on va dire jusqu'à la fête de la musique au mois de juin.
Exactement.
On met les liens sur le site de BFC Classique, comme on le fait d'habitude. Et on aura certainement l'occasion de se retrouver.
Avec grand plaisir, merci de votre accueil.